Bonjour, nous vous proposons ce jour une nouvelle émission de la série que nous consacrons à Marcel Proust. Le thème de cette émission est le personnage de Gilberte. Le personnage de Gilberte traverse lui aussi toute l'œuvre de la recherche, non pas comme un personnage principal, mais comme un personnage qui, à différents moments de sa vie, lors de rencontres avec le narrateur, lui procurera à chaque fois des sensations et désirs érotiques, même si, avec de jolis quiproquos empreints d'humour aussi discrets qu'efficaces. Pour apprécier le déroulement des différentes scènes, il nous faut faire une succincte présentation du contexte. Sven est un voisin et ami de la famille du narrateur à Combray. Il tombera amoureux de Odette, jolie cocotte, et aura avec elle une fille, c'est Gilberte, qui se trouvera être sensiblement du même âge que le narrateur. C'est cette personne, Gilberte, que l'on va retrouver croisant la vie du narrateur à différents moments, pas précisément datée, comme presque tous les événements de la recherche. Dans la première séquence qui va suivre, les deux enfants doivent avoir, disons, entre 8 et 10 ans, et effectue des promenades en famille autour du village de Combray. Comme pour toutes les autres émissions de cette série, un partenaire comédien et chanteur de talent, passionné lui aussi par cette aventure radiophonique qu'il fait sienne et sur qui va reposer cette réalisation, est André Bonhomme, que je remercie chaleureusement. Les illustrations musicales qui viendront ponctuer les récits seront pour cette émission des extraits de morceaux de partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, interprété par Sigiswald Kujikön. Bonne écoute.
La haie laissait voir à l'intérieur du parc une allée bordée de jasmin, de pensées et de verveines, entre lesquelles des giroflées ouvraient leurs bourses fraîches du rose odorant et passé d'un cuir ancien de cordoue, tandis que sur le gravier, un long tuyau d'arrosage peint en vert, déroulant ses circuits, dressait au point où il était percé, au-dessus des fleurs dont il imbibait les parfums, l'éventail vertical et prismatique de ses gouttelettes multicolores. Tout à coup, je m'arrêtai. Je ne pus plus bouger. Comme il arrive, quand une vision ne s'adresse pas seulement à nos regards, mais requiert des perceptions plus profondes et dispose de notre être tout entier. Une fillette d'un blond roux qui avait l'air de rentrer de promenade et tenait à la main une bêche de jardinage nous regardait, levant son visage semé de taches roses. Ses yeux noirs brillaient, et comme je ne savais pas alors, ni ne l'ai appris depuis, réduire en ces éléments objectifs une impression forte, comme je n'avais pas, ainsi qu'on dit, assez d'esprit d'observation pour dégager la notion de leur couleur, pendant longtemps, chaque fois que je repensais à elles, le souvenir de leur éclat se présentait aussitôt à moi comme celui d'un vif azur, puisqu'elle était blonde, de sorte que, peut-être, que si elle n'avait pas eu des yeux aussi noirs, ce qui frappait tant la première fois qu'on la voyait, je n'aurais pas été comme je le fus, plus particulièrement amoureux en elle de ses yeux bleus. Je la regardais, d'abord de ce regard qui n'est pas que le porte-parole des yeux, mais à la fenêtre duquel se penchent tous les sens anxieux et pétrifiés. Le regard qui voudrait toucher, capturer, emmener le corps qu'il regarde et l'âme avec lui. Puis tant j'avais peur que d'une seconde à l'autre mon grand-père et mon père, apercevant cette jeune fille, me fissent éloigner en me disant de courir un peu devant eux, d'un second regard, inconsciemment supplicateur, qui tâchait de la forcer à faire attention à moi, à me connaître. Elle jeta en avant et de côté ses pupilles pour prendre connaissance de mon grand-père et de mon père, et sans doute l'idée qu'elle en rapporta fut celle que nous étions ridicules, car elle se détourna et d'un air indifférent et dédaigneux se plaça de côté pour épargner à son visage d'être dans leur champ visuel, et tandis que, continuant à marcher et ne l'ayant pas aperçu, il m'avait dépassé, elle laissa ses regards filer de toute leur longueur dans ma direction, sans expression particulière, sans avoir l'air de me voir, mais avec une fixité et un sourire dissimulé que je ne pouvais interpréter d'après les notions que l'on m'avait donné sur la bonne éducation, que comme une preuve d'outrageant mépris. Et sa main, esquissant en même temps un geste indécent, auquel, quand il était adressé en public à une personne qu'on ne connaissait pas, le petit dictionnaire de civilité que je portais en moi ne donnait qu'un seul sens, celui d'une intention insolente. Allons, Gilberte, viens, qu'est-ce que tu fais ? Cria d'une voix perçante et autoritaire une dame en blanc que je n'avais pas vue, et à quelque distance de laquelle un monsieur habillé de coutil et que je ne connaissais pas fixait sur moi des yeux qui lui sortaient de la tête, et cessant brusquement de sourire, la jeune fille prit la bêche et s'éloigna sans se retourner de mon côté, d'un air docile, impénétrable et sournois. Ainsi passa près de moi ce nom de Gilberte, donné comme un talisman qui me permettrait peut-être de retrouver un jour celle dont il venait de faire une personne et qui, l'instant d'avant, n'était qu'une image incertaine. L'impression laissée en moi par le ton despotique avec lequel la mère de Gilberte lui avait parlé, sans qu'elle répliquât, en me la montrant comme forcée d'obéir à quelqu'un, comme n'étant pas supérieure à tout, calma un peu ma souffrance, me rendit quelque espoir et diminua mon amour. Mais bien vite cet amour s'éleva de nouveau en moi comme une réaction par quoi mon cœur humilié voulait se mettre de niveau avec Gilberte ou l'abaisser jusqu'à lui. Je l'aimais. Je regrettais de ne pas avoir eu le temps et l'inspiration de l'offenser, de lui faire mal, et de la forcer à se souvenir de moi. Je la trouvais si belle que j'aurais voulu pouvoir revenir sur mes pas pour lui crier en haussant les épaules « Comme je vous trouve laide, grotesque, comme vous me répugniez !» Cependant, je m'éloignais, emportant pour toujours comme premier type d'un bonheur inaccessible aux enfants de mon espèce de par des lois naturelles impossibles à transgresser, l'image d'une petite fille rousse à la peau semée de taches roses qui tenait une bêche et qui riait en laissant filer sur moi de longs regards sournois et inexpressifs. Et déjà, le charme dont son nom avait encensé cette place sous les épines roses, où il avait été entendu ensemble par elle et moi, allait gagner, enduire, embaumer tout ce qui l'approchait, ses grands-parents que les miens avaient eu l'ineffable bonheur de connaître, la sublime profession d'agent de change, le douloureux quartier des Champs-Élysées qu'elle habitait à Paris.
De retour à Paris, le narrateur, âgé d'une douzaine d'années, est emmené jouer sur les contre-allées des Champs-Élysées par Françoise, la servante de la famille. Il se lie d'amitié avec Gilberte, la fille de Swann, et en est amoureux. Swann est toujours en disgrâce dans la famille du narrateur qui lui reproche son mariage inadéquat. Le jeune narrateur écrit une lettre à Swann pour obtenir sa considération. Celui-ci qualifie cette lettre d'imposture et la rend à sa fille pour qu'elle la restitue à son employeur.
Tenez, ajouta-t-elle, ne me laissez pas votre lettre. Il faut rejoindre les autres, puisqu'ils ne m'ont pas retrouvé. M'approchant de Gilberte, qui, renversée sur sa chaise, me disait de prendre la lettre et ne me l'attendait pas, je me sentis si attiré par son corps que je lui dis : Voyons, empêchez-moi de l'attraper. Nous allons voir qui sera le plus fort. Elle l'a mis dans son dos. Je passai mes mains derrière son cou, en soulevant les nattes de cheveux qu'elle portait sur les épaules, soit que ce fût encore de son âge, soit que sa mère voulût la faire paraître plus longtemps enfant, afin de se rajeunir elle-même, nous luttions arc-boutés. Je tâchais de l'attirer, elle résistait. Ses pommettes enflammées par l'effort étaient rouges et rondes comme des cerises. Elle riait, comme si je l'eusse chatouillée. Je la tenais serrée entre mes jambes, comme un arbuste après lequel j'aurais voulu grimper. Et, au milieu de la gymnastique que je faisais, sans qu'en fût à peine augmenté l'essoufflement que me donnait l'exercice musculaire et l'ardeur du jeu, je répandis comme quelques gouttes de sueur arrachées par l'effort, mon plaisir, auquel je ne pus pas même m'attarder, le temps d'en connaître le goût. Aussitôt, je pris la lettre. Alors, Gilberte me dit avec bonté, « Vous savez, si vous voulez, nous pouvons lutter encore un peu. » Peut-être avait-elle obscurément senti que mon jeu avait un autre objet que celui que j'avais avoué, mais n'avait-elle pas su remarquer que je l'avais atteint? Et moi qui craignais qu'elle s'en fût aperçue, et un certain mouvement rétractile et contenu de pudeur offensée, qu'elle eut un instant après, me donna à penser que je n'avais pas tort de le craindre. J'acceptai de lutter encore, de peur qu'elle pût croire que je ne m'étais pas proposé d'autre but que celui après quoi je n'avais plus envie que de rester tranquille auprès d'elle.
Nous sommes quelques années plus tard, le narrateur a autour de 18 ans, et s'il a perdu contact avec Gilberte, il entretient avec la mère de celle-ci de bonnes relations. Et nous le retrouvons sur les Champs-Élysées, à un moment où il est sur le point de renouer sa relation avec Gilberte.
La résignation, modalité de l'habitude, permet à certaines forces de s'accroître indéfiniment. Celle si infime que j'avais pour supporter mon chagrin, le premier soir de ma brouille avec Gilberte, avait été portée depuis lors à une puissance incalculable. Seulement la tendance de tout ce qui existe à se prolonger est parfois coupé de brusques impulsions auxquelles nous nous concédons avec d'autant moins de scrupules de nous laisser aller que nous savons pendant combien de jours, de mois, nous avons pu, nous pourrions encore nous priver. Et souvent, c'est quand la bourse que l'on épargne va être pleine qu'on la vide tout d'un coup. C'est sans attendre le résultat du traitement et quand déjà on s'est habitué à lui, qu'on le cesse. Et un jour où Madame Swann me redisait ses habituelles paroles sur le plaisir que Gilberte aurait à me voir, mettant ainsi le bonheur dont je me privais déjà depuis si longtemps comme à la portée de ma main, je fus bouleversé. En comprenant qu'il était encore possible de le goûter, et j'eus peine à attendre le lendemain. Je venais de me résoudre à aller surprendre Gilberte avant son dîner. Ce qui m'aida à patienter tout l'espace d'une journée fut un projet que je fis. Du moment que tout était oublié, que j'étais réconcilié avec Gilberte, je ne voulais plus la voir qu'en amoureux. Tous les jours, elle recevrait de moi les plus belles fleurs qui fussent. Et si Madame Swann bien qu'elle n'eût pas le droit d'être une mère trop sévère, ne me permettait pas des envois de fleurs quotidiens, je trouverais des cadeaux plus précieux et moins fréquents. Mes parents ne me donnaient pas assez d'argent pour acheter des choses chères. Je songeais à une grande potiche de vieux chine qui me venait de ma tante Léonie. Je l'emportais avec moi avant d'aller chez les Swann et, en donnant leur adresse au cocher, je lui dis de prendre par les Champs-Élysées, au coin desquels était le magasin d'un grand marchand de chinoiserie que connaissait mon père. À ma grande surprise, il m'offrit séance tenante de la potiche non pas 1 000, mais 10 000 francs. Je pris ses billets avec ravissement. Pendant toute une année, je pourrais combler chaque jour Gilberte de rose et de lilas. Quand je fus remonté dans la voiture en quittant le marchand, le cocher, tout naturellement, comme les Swann demeuraient près du bois, se trouva au lieu du chemin habituel, descendre l'avenue des Champs-Élysées. Il avait déjà dépassé le coin de la rue du Berry quand, dans le crépuscule, je crus reconnaître tout près de la maison des Swann, mais allant dans la direction inverse et s'en éloignant, Gilberte, qui marchait lentement, quoique d'un pas délibéré, à côté d'un jeune homme avec qui elle causait et duquel je ne pus distinguer le visage. Je me soulevai dans la voiture, voulant faire arrêter, puis j'hésitais. Les deux promeneurs étaient déjà un peu loin, et les deux lignes douces et parallèles que traçait leur lente promenade allaient, s'estompant dans l'ombre élyséenne. Bientôt, j'arrivai devant la maison de Gilberte. Je fus reçu par Madame Swann. « Oh, elle va être désolée, me dit-elle. Je ne sais pas comment elle n'est pas là. Elle a eu très chaud tantôt à un cours. Elle m'a dit qu'elle voulait aller prendre un peu d'air avec une de ses amies. Je crois que je l'ai aperçue avenue des Champs-Élysées. Je ne pense pas que ce fût elle. »
En tout cas, ne le dites pas à son père. Hein. Il n'aime pas qu'elle sorte à ces heures-là.
Good evening.
Je partis, dis au cocher de reprendre le même chemin, mais ne retrouvai pas les deux promeneurs. Où avait-il été? Que se disait-il dans le soir de cet air confidentiel?
Je rentrai, tenant avec désespoir les 10 000 francs inespérés qui avaient dû me permettre de faire tant de petits plaisirs à cette Gilberte, que maintenant j'étais décidé à ne plus revoir. Je serrai les 10 000 francs, mais ils ne me servaient plus à rien. Je les dépensais du reste encore plus vite que si j'eusse envoyé des fleurs à Gilberte, car quand le soir venait, j'étais si malheureux que je ne pouvais rester chez moi et aller pleurer dans les bras de femmes que je n'aimais pas. Quant à chercher à faire un plaisir quelconque à Gilberte, je ne le souhaitais plus. Maintenant, retourner dans la maison de Gilberte n'eût pu que me faire souffrir. Même revoir Gilberte, qui m'eût été si délicieux la veille, ne m'eût plus suffi, car j'aurais été inquiet tout le temps où je n'aurais pas été près d'elle. Ce qui fait qu'une femme, par toute nouvelle souffrance qu'elle nous inflige souvent sans le savoir, augmente son pouvoir sur nous, mais aussi nos exigences envers elle.
par ce mal qu'elle nous a fait. La femme nous cerne de plus en plus, redouble nos chaînes, mais aussi celle dont il nous aurait jusque-là semblé suffisant de la garrotter pour que nous nous sentions tranquilles. Aussi, je préférais d'abord ne pas retourner chez sa mère. Je continuais bien à me dire que Gilberte ne m'aimait pas, que je le savais depuis assez longtemps, que je pouvais la revoir si je voulais, et si je ne voulais pas l'oublier à la longue. Mais ces idées, comme un remède qui n'agit pas contre certaines affections, étaient sans aucune espèce de pouvoir efficace contre ces deux lignes parallèles que je revoyais de temps à autre de Gilberte et du jeune homme s'enfonçant à petits pas dans l'avenue des Champs-Élysées.
Bien des années ont passé. Sven est décédé. Le narrateur a maintenant quelque 25 ans et Gilberte n'est plus dans ses préoccupations. Il a connu beaucoup d'autres aventures, mais le hasard de la vie réserve bien des surprises.
Mais déjà, la jeune fille avait disparu. Un peu plus loin, je vis un groupe de 3 jeunes filles, un peu plus âgées, peut-être des jeunes femmes, dont l'allure élégante et énergique correspondait si bien à ce qui m'avait séduit le premier jour où j'avais aperçu Albertine et ses amis, que j'emboîtais le pas à ces 3 nouvelles jeunes filles et au moment où elles prirent une voiture, en cherchait désespérément une autre dans tous les sens, et que je trouvais, mais trop tard, je ne les retrouvais pas. Mais quelques jours plus tard, comme je rentrais, j'aperçus, sortant de sous la voûte de notre maison, les 3 jeunes filles que j'avais suivies au bois. C'étaient tout à fait les 2 brunes, surtout, et un peu plus âgée seulement de ces jeunes filles du monde qui souvent, vues de ma fenêtre ou croisées dans la rue, m'avaient fait faire 1000 projets et aimer la vie et que je n'avais pu connaître. La blonde avait un air un peu délicat, presque souffrant, qui me plaisait moins. Ce fut pourtant elle qui fut cause que je ne me contentais pas de les considérer un instant, ayant pris racine avec ces regards qui, par leur fixité impossible à distraire, leur application comme à un problème, semblent avoir conscience qu'il s'agit d'aller bien au-delà de ce qu'on voit. Je les aurais sans doute laissés disparaître comme tant d'autres si, au moment où elles passèrent devant moi, la blonde, était-ce parce que je les contemplais avec cette attention, ne m'eût lancé furtivement un premier regard, puis m'ayant dépassé et retournant la tête vers moi, un second qui acheva de m'enflammer. Cependant, comme elle cessa de s'occuper de moi et se remit à causer avec ses amis, mon ardeur eut sans doute fini par tomber, si elle n'avait été centuplée par le fait suivant. Ayant demandé aux concierges qui elles étaient, « Elles ont demandé Madame la Duchesse, me dit-il. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui la connaisse et que les autres l'avaient seulement accompagnée jusqu'à la porte. Voici le nom. Je ne sais pas si j'ai bien écrit. Et je lus Mademoiselle Desporcheville, que je rétablis aisément. Desporcheville, D'. C'est-à-dire le nom, ou à peu près autant que je me souvenais, de la jeune fille d'excellente famille et apparentée vaguement aux Guermantes, dont Robert m'avait parlé pour l'avoir rencontrée dans une maison de passe et avec laquelle il avait eu des relations. Je comprenais maintenant la signification de son regard. Pourquoi elle s'était retournée et cachée de ses compagnes? Que de fois j'avais pensé à elle, me l'imaginant d'après le nom que m'avait dit Robert. Et voici que je venais de la voir, nullement différente de ses amis, sauf par ce regard dissimulé, qui ménageait entre moi et elle une entrée secrète dans les parties de sa vie qui évidemment étaient cachées à ses amis et qui me la faisait paraître plus accessible, presque à demi mienne, plus douce que ne sont d'habitude les jeunes filles de l'aristocratie. Dans l'esprit de celle-ci, entre elle et moi, il y avait d'avance de commun des heures que nous aurions pu passer ensemble si elle avait la liberté de me donner un rendez-vous. N'était-ce pas ce que son regard avait voulu m'exprimer avec une éloquence qui ne fut claire que pour moi? Mon cœur battait de toutes ses forces. Je n'aurais pas pu dire exactement comment était faite Mademoiselle Desporcheville. Je revoyais vaguement un blond visage aperçu de côté, mais j'étais amoureux fou d'elle. Alors commença une journée folle d'agitation. Avant même d'aller acheter tout ce que je croyais propre à me parer pour produire une meilleure impression le surlendemain quand j'irai voir Madame de Guermantes, chez qui je trouverai ainsi une jeune fille facile et prendrai rendez-vous avec elle, car je trouverai bien le moyen de l'entretenir un instant dans un coin du salon. En entrant dans le salon, je vis la jeune fille blonde que j'avais cru pendant 24 heures être celle dont Saint-Loup m'avait parlé. Ce fut elle-même qui demanda à la duchesse de me représenter à elle. Et en effet, depuis que j'étais entré, j'avais une impression de très bien la connaître, mais que dissipa la duchesse en me disant « Ah ! Vous avez déjà rencontré Mademoiselle de Forcheville ?» Or, au contraire, j'étais certain de n'avoir jamais été présenté à aucune jeune fille de ce nom, lequel m'eût certainement frappé, tant il était familier à ma mémoire, depuis qu'on m'avait fait un récit rétrospectif des amours d'Odette et de la jalousie de Swann. Je n'aurais donc pas eu lieu d'être très étonné en entendant le nom de Forcheville. Et déjà je me demandais si c'était une parente du Forcheville dont j'avais tant entendu parler, si la jeune fille blonde ne m'avait dit aussitôt, désireuse sans doute de prévenir avec tact des questions qui lui eussent été désagréables, « Vous ne vous souvenez pas que vous m'avez beaucoup connu autrefois ? Vous veniez à la maison, avec votre amie Gilberte. J'ai bien vu que vous ne me reconnaissiez pas. Moi, je vous ai bien reconnu, tout de suite. » Elle disait cela comme si elle m'avait reconnu tout de suite dans le salon, mais la vérité est qu'elle m'avait reconnu dans la rue et m'avait dit bonjour, et plus tard, Madame de Guermantes me dit qu'elle lui avait raconté comme une chose très drôle et extraordinaire, que je l'avais suivie et frôlée, la prenant pour une cocotte.
Le narrateur est désormais dans la trentaine. Son ami Saint-Loup, qui a épousé Gilberte quelque temps auparavant, l'invite dans sa maison pendant ses absences. Le narrateur retrouve donc Gilberte et passe du temps en sa compagnie à Combray. Une occasion de parler souvenirs, de se fournir des explications et de tirer des conclusions proustiennes.
Les promenades que nous faisions ainsi, c'était bien souvent celles que je faisais jadis enfant. Je m'attristais de penser que ma faculté de sentir et d'imaginer avait dû diminuer pour que je n'éprouvasse pas plus de plaisir dans ces promenades. Gilberte elle-même, qui me comprenait encore moins bien que je ne faisais moi-même, augmentait ma tristesse en partageant mon étonnement. « Comment ? Cela ne vous fait rien éprouver, me disait-elle, de prendre ce petit raidillon que vous montiez autrefois ?» Et elle-même avait tant changé que je ne la trouvais plus belle, qu'elle ne l'était plus du tout. Tandis que nous marchions, je voyais le pays changer, il fallait gravir des coteaux, puis des pentes s'abaissaient. Nous causions très agréablement pour moi avec Gilberte. Non, sans difficulté pourtant. En tant d'être, il y a différentes couches qui ne sont pas pareilles. Le caractère de son père, le caractère de sa mère. On traverse l'une, puis l'autre. Mais le lendemain, l'ordre de superposition est renversé. Et finalement, on ne sait pas qui départagera les parties, à qui on peut se fier pour la sentence. Gilberte était comme ces pays avec qui on n'ose pas faire d'alliance parce qu'ils changent trop souvent de gouvernement. Mais au fond, c'est un tort. La mémoire de l'être le plus successif établit chez lui une sorte d'identité. Et fait qu'il ne voudrait pas manquer à des promesses qu'il se rappelle, si même il ne les eût pas contresignées. Quant à l'intelligence, Elle était chez Gilberte, avec quelques absurdités de sa mère, très vives. Mais ce qui ne tient pas à sa valeur propre. Je me rappelle que dans ces conversations que nous avions en nous promenant, plusieurs fois, elle m'étonna beaucoup. L'une, la première, en me disant « Si vous n'aviez pas trop faim et s'il n'était pas si tard, en prenant ce chemin à gauche et en tournant ensuite à droite, en moins d'un quart d'heure, nous serions à Guermantes. » Comme si elle m'avait dit « Tournez à gauche, prenez ensuite à votre main droite et vous toucherez l'intangible. Vous atteindrez les inatteignables lointains dont on ne connaît jamais sur terre que la direction, que le côté. Ce que j'avais cru jadis que je pourrais connaître seulement de Guermantes, et peut-être, en un sens, je ne me trompais pas. » Un de mes autres étonnements fut de voir les sources de la Vivonne, que je me représentais comme quelque chose d'aussi extraterrestre que l'entrée des enfers, et qui n'était qu'une espèce de lavoir carré où montaient des bulles. Et la troisième fois fut quand Gilberte me dit « Si vous voulez, nous pourrons tout de même sortir un après-midi et nous pourrons alors aller à Guermantes en prenant par mes églises, c'est la plus jolie façon. » Phrase qui, en bouleversant toutes les idées de mon enfance, m'apprit que les deux côtés n'étaient pas aussi inconciliables que j'avais cru. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut combien peu, pendant ce séjour, je revécus mes années d'autrefois, désirais peu revoir Combray, trouvais mince et laide la Vivonne. Mais quand elle vérifia pour moi des imaginations que j'avais eues du côté de mes églises, ce fut pendant une de ces promenades nocturnes, bien qu'elles eussent lieu avant le dîner, mais elle dînait si tard. Au moment de descendre dans le mystère d'une vallée parfaite et profonde que tapissait le clair de lune, nous nous arrêtâmes un instant, comme deux insectes qui vont s'enfoncer au cœur d'un calice bleuâtre.
Gilberte eut alors, peut-être simplement par bonne grâce de maîtresse de maison qui regrette que vous partiez bientôt et qui aurait voulu mieux vous faire les honneurs de ce pays que vous semblez apprécier, de ses paroles ou son habileté de femme du monde, sachant tirer parti du silence, de la simplicité, de la sobriété dans l'expression des sentiments, vous fait croire que vous tenez dans sa vie une place que personne ne pourrait occuper. Et penchant brusquement sur elle, la tendresse dont j'étais rempli par l'air délicieux, la brise qu'on respirait, je lui dis « Vous parliez l'autre jour du raidillon, comme je vous aimais alors. » Elle me répondit « Pourquoi ne me le disiez-vous pas ? Je ne m'en étais pas douté. Moi, je vous aimais. Et même deux fois, je me suis jeté à votre tête. Quand donc ? La première fois ? À Tansonville. Vous vous promeniez avec votre famille, je rentrais. Je n'avais jamais connu un aussi joli petit garçon. J'avais l'habitude, ajouta-t-elle d'un air vague et pudique, d'aller jouer avec de petits amis dans les ruines du donjon de Roussainville. Et vous me direz que j'étais bien mal élevé, car il y avait là-dedans des filles et des garçons de tout genre qui profitaient de l'obscurité. L'enfant de cœur de l'église de Combray, Théodore, qui, il faut l'avouer, était bien gentil, Dieu qu'il était bien, et qui est devenu très laid, il est maintenant pharmacien à mes églises, s'y amusait avec toutes les petites paysannes du voisinage. Comme on me laissait sortir seul, dès que je pouvais m'échapper, j'y courais. Je ne peux pas vous dire comme j'aurais voulu vous y voir venir. Je me rappelle très bien que, n'ayant qu'une minute pour vous faire comprendre ce que je désirais, au risque d'être vu par vos parents et les miens, je vous l'ai indiqué d'une façon tellement crue que j'en ai honte maintenant. Mais vous m'avez regardé d'une façon si méchante que j'ai compris que vous ne vouliez pas. Et tout d'un coup, je me dis que la vraie Gilberte, la vraie Albertine, c'était peut-être celle qui s'était au premier instant livrée dans leur regard, l'une devant la haie d'épines roses, l'autre sur la plage. Et c'était moi qui, n'ayant pas su le comprendre, ne l'ayant repris que plus tard dans ma mémoire, après un intervalle où par mes conversations tout un entre-deux de sentiments leur avait fait craindre d'être aussi franche que dans la première minute, avait tout gâté par ma maladresse. Je les avais ratés. Je revis Gilberte dans ma mémoire. J'aurais pu dessiner le quadrilatère de lumière que le soleil faisait sous les aubépines, la bêche que la petite fille tenait à la main, le long regard qui s'attacha à moi. Seulement j'avais cru, à cause du geste grossier dont il était accompagné, que c'était un regard de mépris, parce que ce que je souhaitais me paraissait quelque chose que les petites filles ne connaissaient pas et ne faisaient que dans mon imagination pendant mes heures de désir solitaire. Encore moins aurais-je cru que si aisément, si rapidement, presque sous les yeux de mon grand-père, l'une d'entre elles eut l'audace de le figurer. Ce que je souhaitais si fiévreusement alors, elle avait failli. Si j'eusse seulement su le comprendre et le retrouver, me le faire goûter dès mon adolescence. Et la seconde fois, reprit Gilberte, c'est bien des années après, la veille du jour où je vous ai retrouvé chez ma tante Oriane. Je ne vous ai pas reconnu tout de suite, ou plutôt, je vous reconnaissais sans le savoir, puisque j'avais la même envie qu'à Tansonville. Dans l'intervalle, il y avait eu pourtant les Champs-Élysées. Oui, mais là, vous m'aimiez trop. Je sentais une inquisition sur tout ce que je faisais. D'ailleurs, continua Gilberte, même le jour où je vous ai rencontré sous votre porte, vous étiez resté tellement le même qu'à Combray. Si vous saviez comme vous aviez peu changé. Et ce même jour où je l'avais rencontré sous une porte, bien qu'elle ne fût pas Mademoiselle de Lorgeville, je ne m'étais pas tout à fait trompé sur la signification de son regard, ni sur l'espèce de femme qu'elle était, et m'avouait maintenant avoir été. Je ne pensais pas lui demander quel était ce jeune homme avec lequel elle descendait l'avenue des Champs-Élysées le jour où j'étais parti pour la revoir, où je me fusse réconcilié avec elle, pendant qu'il était temps encore. Ce jour qui aurait peut-être changé toute ma vie, si je n'avais rencontré les deux ombres s'avançant côte à côte dans le crépuscule. Si je le lui avais demandé, elle m'aurait peut-être dit la vérité, comme Albertine, si elle eût ressuscité. Et en effet, les femmes qu'on n'aime plus et qu'on rencontre après des années, n'y a-t-il pas entre elles et vous la mort, tout aussi bien que si elles n'étaient plus de ce monde, puisque le fait que notre amour n'existe plus fait de ce qu'elles étaient alors, ou de celui que nous étions, des morts. Peut-être aussi ne se fut-elle pas rappelée, ou eut-elle menti. En tout cas, cela n'offrait plus d'intérêt de le savoir, parce que mon cœur avait encore plus changé que le visage de Gilberte. Celui-ci ne me plaisait plus guère, mais surtout, je n'étais plus malheureux. Je n'aurais pas pu concevoir, si j'y eusse repensé, que j'eusse pu l'être autant de rencontrer Gilberte marchant à petits pas à côté d'un jeune homme, de me dire « C'est fini. Je renonce à jamais la voir. » De l'état d'âme qui, cette lointaine année-là, n'avait été pour moi qu'une longue torture, rien n'en subsistait. Car il y a dans ce monde où tout s'use, où tout périt, une chose qui tombe en ruine, qui se détruit encore plus complètement, en laissant encore moins de vestiges que la beauté. C'est le chagrin.
Ainsi se termine cette émission consacrée à l'œuvre de Marcel Proust, plus précisément à l'évocation du personnage de Gilberte. En interlude entre les différentes dictions, vous avez pu entendre des extraits de morceaux de Partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, interprétés par Sigiswald Kujekan. Comme pour toute cette série d'émissions, un partenaire comédien et chanteur de talent, passionné lui aussi par cette aventure radiophonique, sur qui repose cette réalisation, est André Bonhomme, que je remercie grandement d'avoir bien voulu accepter que nous nous lancions ensemble dans ce projet. Thank you.
Thank you.